Ah et messieurs dames, c'est bon pour nous, c'est dimanche matin, c'est 11h, 101.7, l'autre radio évidemment c'est...
Sport Épique.
C'est Sport Épique, aujourd'hui Sport Épique bien sûr, avec mon Fred pour la dernière, c'est
de
déjà
la
notre dernière.
On fera peut-être en duplex pour les JO.
Oui, exactement.
Je serai sur Paris, toi, devant ta petite lucarne. Mais
Frédéric a les moyens, je crois.
Frédéric Baratine, Frédéric sera devant sa télévision.
Frédéric Baratine, ah bah alors ça, c'est bien la première fois.
Ouais, je l'avoue, cette fois, ouais. je me mets au niveau de l'équipe.
Oh le vandale. peut-être là pendant les JO.
Je propose de faire un duplex au moment du 20 km nage libre.
Ah ouais.
Là on aura 3 heures à tuer donc.
On pourra se donner un petit peu de temps. T'as bien raison. Ça va faire un carton. Les gens vont être passionnés. Je pense qu'on a du Tour de France aussi à faire.
Également.
Là, ça me passionne. Et donc je me tourne vers Pascal.
Salut tout le monde.
Pascal Bouédec, notre consultant vélo évidemment. Le Tour va démarrer. On
dit la petite reine.
Et pendant ces 3 semaines. Ces 3 semaines, on veut savoir là, les pronos. Tu vas tout nous donner, évidemment, Pascal. Merci d'être là. Et là, on démarre comme d'habitude. Ce samedi soir, c'était la finale du Top 14.
La finale. The final.
Est-ce que c'était la plus belle finale qu'il pouvait y avoir entre les deux plus grosses équipes du championnat, Fred?
Ah ouais. Opposition de style, moi je suis très fan.
Très fan. Jo, t'es avec nous, notre spécialiste rugby. Comment tu vas, mon ami?
Eh bien, écoutez, ça va très bien. Je suis content d'être avec vous pour la dernière.
La dernière. Et surtout, je te dis, cette finale de samedi soir. Alors là, Fred est en train de nous dire, c'était la finale que l'on attendait. Est-ce que ça avait été le 1 et le 2 de la saison régulière?
Alors, pas tout à fait non plus, mais on attendait le Stade Toulousain, évidemment, comme d'habitude.
Oui, ça c'est bien.
C'est le grand abonné des finales. Et puis, l'UBB, nous ici, on était super contents, forcément.
Bah, forcément. Bah,
c'est chez toi.
Depuis la création du Top 14, jamais en finale.
Ah ouais.
Eh bien non, jamais finaliste. Dernier titre officiel, c'est 91, je crois, 92, avec Moscato et toute la clique, là.
Ouais,
très 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 beau jeu, très beau match, très belles équipes.
Et ceux qui finissent deux de la saison régulière, c'était qui alors?
Il me semble que c'était Stade Français.
Qui avait fait
une très très belle saison, même un peu inattendue, on ne les attendait pas à ce niveau.
Ouais.
Et très belle demi.
Bien sûr, très belle demi. Donc il s'en est pas fallu de beaucoup pour que ça passe, mais la finale rêvée.
Est-ce que t'as eu un effet à Bordeaux cette année sur notre l'effet ailier, merde j'ai oublié le nom du coup
Penaud,
t'as eu un effet Penaud, le mec, marqueur extraordinaire,
oui.
Évidemment là.
Ah bah oui, l'autre il est venu renforcer la ligne arrière, c'est un avion, voilà. Ça va vite, et puis ça prend beaucoup d'initiative, tu vois, contrairement, alors Abdel Biarré, plus jeune évidemment, il n'a pas la bouteille d'un Penaud, mais Abdel Biarré, c'est pareil, c'est un scooter, le mec, il va à une vitesse de fou,
ouais.
Il reste vachement dans sa ligne, dans son couloir, alors que Penaud... Tu peux le voir prendre la place d'un centre. Il, du 9 au 15, il est capable d'être un peu partout, en fait. Donc, c'est un électron libre.
C'est le Dembélé du rugby, quoi.
Il finit mieux.
Le même regard.
Donc, il marque les gars. Pour le coup, il a compris le jeu, là. Il a compris qu'il ne fallait pas que je joue au ballon. Donc, non, il a fait énormément de bien. Et bah, c'est pas grave.
D'un autre côté, c'est plus simple au rugby. Il faut juste passer la ligne. Donc, là, je crois que Dembouz, il serait pas mal aussi, c'était un truc comme ça.
Évidemment, regarde, tu finis avec 40 points, avant de mettre 40 buts au foot, vous êtes tranquille, les gars.
Mais alors, tu sais, les Penauds, là, les ailiers un petit peu de ce gabarit-là, là, ça me fait penser au Jonah Lomu de l'époque, c'est-à-dire qu'on t'annonce des temps sur 100 mètres complètement extraordinaires, les mecs, ils mettent un nombre d'essais, c'est de la folie, et moi, quand je les regarde jouer, Bah oui, ils ont un physique, mais ça a l'air lourd quand ça court. Tu vois, Penaud, je le trouve pas élégant quand il court. Alors que bon, évidemment, on va prendre le plus racé. On va prendre un Mbappé quand il démarre son sprint. Il est magnifique. Un Penaud, tu sens qu'il faut faire démarrer la charrette avant que ça parte,
mais,
quoi.
Mais attends, après il y a 20 kilos d'écart entre les deux. Hein.
Mais oui, ça on est d'accord. Mais le gars, c'est un ailier fabuleux. C'est un ailier qui quand il part lancer, ça va très fort. Ouais. Mais ce fait d'avoir du retard au démarrage, tu vois, je me dis, bah, c'est finalement relativement simple à prendre.
Parce qu'il faut être ultra puissant au rugby. Au foot, faut être véloce, là, faut être puissant, parce que tu sais que t'as des mecs sur le paletot, quoi.
Bah, tu sais, les petits Vincent Clair, Jo, les petits Vincent Clair, les petits.
Les petits Vincent Clair. Petit Vincent Clair, tu l'as vu en short, Vincent Clair, hein.
Bah, Vincent Clair, c'est des appuis avant d'avoir un bon physique.
Non, mais il a des cannes de folie, quoi.
Voilà, non, mais bien sûr, il a des cannes de folie. Mais c'est pas un tank comme Penaud. C'est pas le même profil.
C'est son front, Penaud, qui joue contre lui. C'est ça qui.
Non, mais tu vois ce que je dis, cette opposition des styles là, entre les petits ailiers hyper vifs et bon, qui font rêver par leur vélocité, et c'est un peu mastodonte là qui arrive et bam bam bam. Mais bon, après, attention, fabuleux Penaud, bien sûr, hein, mais moi j'aurais moins peur d'affronter un Penaud qu'affronter un petit Dominici. J'aurais eu une trouille monumentale, un petit Vincent Clair, il te met un crochet dans les dents, tu perds terrain, tu perds tout, quoi.
Ah ouais, mais Penaud, ça va vite aussi, hein. Putain, je te garantis, tu prends un Rafus, c'est pareil, le mec il fait plus d'1m90. Pour l'approcher, déjà, rien que pour l'approcher, l'autre il tend le bras déjà. Bah,
ouais, tu te mets une claque dans la tronche. Ouais.
Non, c'est hyper véloce, c'est hyper rapide, c'est puissant. Si, bah après, c'est les. Mais bon, il y a encore des petits gabarits qui vont très vite, hein. Enfin, petit entre guillemets. Regarde Yel Diarré, c'est pas.
Non, mais voilà,
c'est loin d'être une armoire. Mathis Lebel qui était blessé, mais Mathis Lebel, c'est un des meilleurs marqueurs d'essai du Stade Toulousain, et c'est loin d'être le plus golgote. Hein.
Ouais.
Il est assez sec, il est assez fin. Par contre, le mec, il a un démarrage sur les trois premiers mètres. Il est imprenable.
Eh ben voilà. Eh ben voilà. Ben ça, je pense qu'il faut ce profil-là, ouais, autant que le Golgoth.
Dit la cloche, oui. Lebel, quoi.
C'est très bien. Toulouse à sa place, toujours. Rien à dire.
Attendu.
Sais, on a beaucoup dit Guinoves à l'époque. Guinoves fait Toulouse, mais en fait Toulouse s'est fait par elle-même ou par lui-même, et on voit que l'équipe continue à vivre après son mentor, quoi. Ce qui n'a pas été le cas, tu vois, dans le genre des Manchester United qui a perdu Ferguson, des choses comme ça. Là, tu pouvais perdre Noves à Toulouse et perdre tout ton esprit rugby.
Ouais, mais justement, c'est peut-être parce qu'il a su transmettre aussi, quoi.
Peut-être.
Ça n'est pas que sur une personne, c'est une institution. Non,
t'as une identité de jeu qui est présente depuis des décennies. Les entraîneurs passent, mais voilà, le style, le fond de jeu de Toulouse, il bougera jamais, quoi. Les mecs, ils sont élevés là-dedans, le centre de formation, dès qu'ils sont gamins, c'est que ça, quoi.
Ouais.
C'est du jeu, machin. Donc tu peux mettre n'importe qui à la tête. Après, bon, je sais pas, le foot, il y a peut-être aussi Barcelone, tu vois, c'est Barcelone qui est un peu comme ça, avec des styles de jeu très caractéristiques, et suivant les entraîneurs, bah, ça change pas trop, parce qu'il y a une telle identité de jeu que bah, c'est ça qui fait tout, quoi.
Ouais, mais Jo, toi, t'es un petit peu moins foot, mais nous, on est dans les années, Fred, on est dans les années football à la nantaise.
Ouais, nantaise,
et,
ouais.
on te donnait du football à la nantaise toute la journée, comme quoi c'était une institution dans ce club que tu ne pouvais absolument pas jouer autrement. Et ben, à l'arrivée, on regarde Nantes aujourd'hui, ça ne ressemble absolument plus à rien. Ouais, donc l'identité du club est une chose, les personnes sont...
Mais il y a la réalité économique. Nantes, ce qui les a détruits, c'est la réalité économique.
Oui, il y a certainement ça aussi. Mais...
Voilà, parce qu'eux, ils avaient une école, ils attiraient les jeunes. Maintenant, les jeunes, à 14-15 ans, ils vont dans les clubs qui offrent le plus. Donc,
évidemment,
ça change tout, quoi.
Évidemment. Mais Toulouse, ça ne se perd pas. Et pourtant, on est passé dans le monde professionnel aussi. Alors, il doit y avoir du fric à Toulouse.
Bah ouais, c'est ça aussi.
Dans,
ouais.
Dans le top 14, machin, on le sait. Mais bah, moi, je trouve ça fabuleux. Je trouve ça fabuleux que Toulouse continue à proposer son jeu. Bravo à eux. Une belle saison, bonjour ou quoi?
Une belle saison pour
l'ensemble, ton top 14, l'ensemble du top 14.
Oui, une belle saison. Hein. Quand tu, enfin nous de notre côté, quand tu joues une finale, tu peux pas avoir une plus belle saison. Hein.
Non, mais je veux dire au niveau justement tout le top 14, toutes les équipes. Est-ce qu'il y a pas avec cette fameuse professionnalisation aussi, on sait très bien que les clubs qui montent, c'est très très dur pour eux. Les clubs de fin de classement, il y a un gouffre quoi entre le début et la fin.
Ah bah oui, mais ça sera le cas encore pendant de très nombreuses années. Hein. Je veux dire, il y a quand même il y a des écarts, ouais. Entre les 5-6 premiers, il y a des gros gros budgets, et derrière, bah, c'est un peu comme dans tous les sports.
Bah, c'est tous les sports.
Si t'as pas les ronds, c'est très très compliqué. Hein. C'est très compliqué. Hein. Là, il y a des petits nouveaux là, qui vont monter l'année prochaine. Pff, ça va être encore, ça va jouer les 12, 12, 13, 14e place. Ouais. Ça va se maintenir, mais au forceps jusqu'à la fin, quoi.
Ouais.
C'est la loi économique, malheureusement, on n'y peut rien. C'est comme
et
ça.
La diffusion de Canal, là, succès, succès limité, succès ou raté, à ton avis Parce que c'est un sacré pari de la part de Canal+, quand même, hein, de prendre le créneau du samedi soir.
Ouais, mais après, les passionnés regardent toujours du rugby, si tu veux, mais est-ce qu'il y a suffisamment de gens qui seront prêts à se poser devant leur télé, payer leur abonnement pour avoir le top 14 tous les samedis soirs? Je sais pas.
Bah ouais.
Je sais pas.
Déjà, t'auras toute la Bretagne
La Bretagne,
à la rentrée prochaine, quoi.
On est en ébullition, ébullition aussi.
Ah, avec quoi? Avec Van?
Évidemment, avec Van, rigolo.
Avec Van, oui, bien sûr, mais bon, faut qu'ils apprennent, quoi. Ouais, après, je sais pas. C'est pas encore le même public que le foot. Ouais. Peut-être, y a pas autant, tu vois, de passion. C'est pas encore autant dans les. C'est pas encore entré dans les familles aussi, quoi. Faut encore une fois, le rugby, c'est difficile de s'y intéresser si tu connais déjà les règles. Hein.
Ouais.
C'est vrai que c'est.
Pas accessible à tout le monde. Hein.
Il faut une saison déjà.
Bah Pascal, voilà, il a pas compris là.
Dès que tu tapes sur du QI de moins de 90, bon bah tout cela tu les perds.
Mais forcément.
C'est au-dessus de 150 aussi.
Ok, c'est super. Vive Bordeaux, bien sûr. Et l'an prochain, du coup, pour une nouvelle saison de top 14, mon Jo, tu seras toujours notre consultant, quoi.
Bien sûr.
Allez, va au stade.
Un grand plaisir.
Bien entendu. Allez, on te laisse, mon ami. Et un très bon dimanche à toi.
Salut.
Ouais. À bientôt. Salut. Ciao.
On continue, messieurs dames, avec notre consultant vélo, évidemment Pascal. Donc là, t'as du lourd. J'ai regardé une très belle émission, moi, cette année, cette semaine plutôt, en replay sur France TV. C'était sur le Tour, donc 2023 forcément.
Ouais.
Et tu vois Van Aert. Tout était calculé pour que Van Aert gagne la première ou la deuxième étape. Mmh. Et il rentre dans le bus de la Jumbo, fou de rage, parce qu'il n'a pas gagné, parce qu'il ne s'est pas senti protégé, parce qu'il y a eu des vagues dans le sprint, parce que ceci, parce que cela. Est-ce que toutes ces polémiques-là, elles existent? Est-ce que c'est parce que c'est Van Aert? Est-ce que c'est parce que c'est la Jumbo? Est-ce que c'est inhérent au cyclisme ou là, c'est un moment?
Moi, je prends juste la parole juste avant Pascal, juste pour dire, Van Aert, normalement, il devrait être habitué à ne pas gagner, mais bon, voilà.
Tu vois ça comme ça, toi.
Non, polémique, je sais pas. Après, c'est vrai que, comme tous les sports, maintenant, ils ont le droit aussi à leur série Netflix, où justement, oui, on voit les choses qui sont quand même relativement scénarisées.
Ouais.
Donc après la polémique, enfin je pense que c'est dans tous les sports, t'as des coups de gueule dans les équipes, t'as des insatisfaits, et puis il faut pas oublier que ça reste des champions, c'est des gens qui ont des égos bien présents, bien imprégnés. Et moi, je trouve ça normal qu'un mec qui... Il y a un plan qui est mis en place, si le truc n'est pas respecté ou ouais, si le mec il n'y arrive pas et qu'il soit déçu, ça s'entend. Enfin, je veux ouais, dire que ça fait partie de la chose. Après, disons que cette année, la Visma, c'est un peu le chat noir quand même.
Ah!
Parce que bon, quand même leurs deux leaders emblématiques se cassent la gueule et ont du mal à revenir. On ne sait pas trop où ils en sont au niveau de leur niveau physique. L'équipe, entre ce qui était prévu sur l'équipe du Giro, ça a été remanié complètement. Celle du Tour de France, finalement, c'est pas du tout ce qui était prévu non plus.
Ah ouais, ouais.
Les objectifs des uns et des autres ont été un peu modifiés. Donc voilà, c'est vrai que là, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu. La vraie inconnue, c'est le niveau de Vingegaard qui va être capable de faire.
Mais tu vois dans ce reportage là, tu vois donc Vingegaard gagne avec un temps à l'arrivée, il a 5 minutes d'avance peut-être.
Ouais.
Et t'as dans le bus sur ces premières étapes là, le fait de ne pas gagner d'étape, ça semblait catastrophique. Le directeur sportif de la Jumbo est dans un état catastrophique, alors que t'as un mec qui va certainement te gagner ton Tour de France. C'est quand même plus important que gagner une étape. Et, et apparemment, non, gagner une étape du Tour de France, c'est un monument absolu, quoi.
Ça. Non, mais c'est parce qu'ils doivent gérer les égos. Ils savent que dans leurs équipes, ils en ont un qui vient là pour faire justement les étapes, parce que. Après, il va se mettre au diapason pour son leader. Donc, si lui il passe outre, il va aussi pourrir l'ambiance. Je veux dire, c'est aussi des leaders. Voilà. Donc, c'est ça qui fait. Si tu dis, tu lui dis, c'est pas grave, on s'en fout. On a Jonas pour gagner le tour. L'autre, je crois qu'il prendrait pas bien.
T'as raison.
Donc faut aussi, c'est aussi un jeu de rôle, je pense. Hein. Faut aussi montrer que oh là là, on est frustré, ouais. On aurait dû te mettre dans les meilleures conditions, etc. Quoi.
Ouais.
Faut gérer les égos, quoi.
Après l'année dernière, Van Aert, il est arrivé sur le tour en sachant qu'il allait abandonner parce qu'il attendait l'arrivée de son deuxième enfant. Donc le mec, il se disait, faut que je mette au fond direct, comme ça au moins je suis pédard et je suis libéré.
Ouais.
Et en fait, moi je pense surtout à la deuxième étape, là, lorsque le gars de Cofidis, il les coiffe.
Oui.
Et effectivement, le mec, il est dans une furie pas possible. Il explose son bidon contre la route. Oui. Après, il y a tout le monde qui se moque de lui, tout ça.
Ouais.
Et je pense que le côté frustration, il a pris le pas et ça lui a sa quinzaine de Tour de France, parce qu'il a abandonné à peu près à une semaine de la fin. En fait, ça lui a flingué son Tour de France.
Ah ouais.
Et comme c'est un champion et qu'il a un ego démesuré quelque part, même si c'est un mec visiblement très sympa. Bah les mecs, ils, de temps en temps, ça arrive aussi de montrer sa frustration.
Évidemment. Et puis bon, c'est quand même, gagner une étape.
Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de commun dans le vélo. Je veux dire, un mec qui sort au foot parce qu'il est frustré que l'entraîneur le sorte, il tape dans n'importe quoi, il sort pas. Ou le mec qui fait un tac, les pieds décollés, limite c'est dans le folklore du football. Le vélo, c'est beaucoup plus soft par rapport à ça.
Donc quand il y a
quelqu'un qui montre un peu son désarroi ou sa détresse par rapport à un résultat. C'est vrai que tout de suite les gens retiennent ça alors qu'au final c'est un non-événement quoi.
Ouais, c'est un non-événement, mais bon, c'est quand même la Jumbo, donc forcément ils sont plus exposés que les autres. T'as l'impression que oui, il n'y a que des polémiques dans le foot, et ben non, il y en a aussi là, parce que tu te dis, VAR et compagnie, bon, ben là c'est la même VAR, c'est les photos finish de l'arrivée.
Ouais, mais là c'est aussi parce que l'année d'avant il avait tout exposé aussi, donc il était attendu, il avait exposé sur tous les terrains.
Ouais.
Donc, il
faut se souvenir de la saison de Van Aert, hein, il a fini frustré de sa campagne des classiques, hein, il a pris une pige sur toutes les courses qu'il a pu prendre avec Pogacar et puis Van Der Poel, il arrive sur le Tour de France revanchard, Van Der Poel se met au service de son sprinter Philipsen et l'autre il écrase tout, il y a une quatrième victoire, c'est un tout, je pense que c'est voilà. Alors après on va voir, hein, ça se trouve cette année il va démarrer le Tour de France plein pot, il va gagner 4-5 étapes et puis tout le monde dira Van Aert il est phénoménal. Et on parlera plus de sa campagne de classique qu'il a loupé à cause de sa gamelle, quoi. Donc c'est toujours
pareil. De toute façon, quoi qu'il advienne, évidemment, il est phénoménal. Mais il faut être plus phénoménal que les autres. Pas évident. Ces fameuses vagues. Alors là, pour le coup, on peut regarder tous les images. C'est facile à voir. T'as pas besoin d'être juge de quoi que ce soit ou je sais pas comment on les appelle en vélo.
Commissaire.
Mais la vague, tu la vois, quoi. Que c'est Jakobsen ou Philipsen qui le pousse dans les barrières. Et lui, il dit, mais moi, attention, moi, je vais avoir un enfant. C'est pas du tout le moment que je vais pas sacrifier ma vie moi pour un sprint et là c'est de la folie ce qu'on me fait. Alors est-ce qu'on en est encore à l'époque des Abdou Japarov là qui te faisait toute la largeur de la route, enfin ça la règle elle est claire, tu dois rester dans ton couloir quand tu sprints.
Tu dois garder ta ligne effectivement après
sur les 200 derniers mètres ou 150 derniers mètres
à partir du moment où tu lances ton sprint tu dois rester sur ta ligne maintenant.
Ouais.
Après, faut remettre le contexte, c'est-à-dire que maintenant les arrivées sont systématiquement en agglomération avec des on va dire du mobilier urbain qui est carrément pas adéquat quand même clairement.
Ouais.
Et moi sur le sprint que tu évoques de souvenir, Philipsen il garde sa ligne.
Ah ouais.
C'est simplement que les barrières reviennent. Enfin voilà, il y a un décroché de barrière qui fait que, alors le mec c'est sûr c'est toujours pareil, il met un coup de frein c'est mort quoi. C'est quand t'es à 70 à l'heure, tu peux pas repartir, il te reste 150 mètres.
Quand sa cabane dure. Donc là, faut évidemment te mouiller, là, Pascal. On y va, là, les trois en tête. Parce que il prend quand même une sacrée valse, Pogacar, l'année dernière.
Oui.
Alors qu'il était en forme, il était quand même en forme.
Alors,
non, il avait été blessé, etc. On savait pas du tout, justement, on connaissait pas son état de forme.
Ah ouais, lui, il prétend quand même dans ce reportage que ça va, quoi. Que tout va bien.
Ouais, mais c'est pareil, c'est ce que je te disais tout à l'heure.
Il va jamais dire non, je suis au fond de la mine, quoi. Donc,
ouais, c'est vrai. Mais là, bon, le mec, t'as fait une saison de classique de dingue.
Il a tout gagné à ce qu'il a parcouru.
Bon, donc il a tout gagné.
Ou s'est engagé sur toutes les courses, il a gagné systématiquement.
Et c'est
pour
même
ainsi
pas,
dire.
C'est même pas gagné quoi. C'est limite humilié. Toi, t'es
ouais,
en
ouais, ouais. Ouais. Alors
ça dépend du plateau quoi.
Ouais, alors voir Rolette. Enfin, le Giro, il a fait un Giro phénoménal, mais je pense pas que la course du Giro auquel il a participé, il s'est vraiment mis à fond systématiquement. Sans faire offense aux participants. On veut dire Garen Thomas a 38 ans. Même si ça reste un excellent coureur, hein, formidable. Mais Felipe Martinez, c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, en face, c'est pas Evenepoel, Roglic ou Vingegaard. Quoi. Je veux dire, la concurrence, c'est pas tout à fait la même.
Ouais, c'est vrai.
Ça peut. Ça va donner une incertitude. Il a eu le Covid. Vingegaard, on sait pas où il en est. Ça va être un petit peu la surprise. Maintenant, de toute façon, voilà, on a deux fantastiques coureurs. On verra par la suite ce que ça donne, aussi bien cette année que dans les années futures. Et puis par la suite aussi, on verra. Mais
dans le reportage, c'est ce qu'ils annoncent, ils le disent. On a la chance d'avoir deux phénomènes en même temps en ce moment, ce qui est quand même rare, parce qu'il y a eu toute l'époque Indurain, après il y a eu toute l'époque Armstrong, après il y a eu toute l'époque
Sky,
Froome, ouais, machin, et ainsi de suite. Donc les vrais duels, nous, on les a pas connus. Enfin, moi, j'en ai pas connu, quoi. Et c'est vrai que ça manque. Et là, bah, Vingegaard, si tu restes sur la forme de l'an passé, bon, c'est même pas la peine d'aller le toucher non plus, quoi. C'est injouable.
Justement, c'est ça qui est intéressant cette année, c'est que normalement Vingegaard, il doit normalement pas être en forme ou pas être en aussi bonne forme. Donc normalement, il est censé avoir des failles, ce qui va rajouter du suspense normalement. Voilà. Alors après, peut-être que les failles vont être béantes et là, ça va. Du coup, il y aura plus de suspense. Donc ça, voir. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est l'inconnu, quoi.
C'est intéressant, Pascal. Est-ce que tu veux, comme avec les chevaux, si t'as plus de 5 minutes d'avance au tour 2023, on va te rajouter du poids sur ton vélo au tour 2024, parce que sinon
on t'enlève un moteur, c'est ça que tu veux dire.
Sinon on part pas, tout est écrit déjà là. Moi je peux te les faire, les pronostics, hein,
Ouais, mais c'est toujours pareil dans le vélo. Le Tour de France, c'est comme si en fait t'avais une Coupe du Monde tous les ans pour le football, et tu ne focalises que là-dessus, mais une saison, c'est pas que le Tour de France, même si c'est très important pour les équipes, parce que c'est la tête de gondole. Mais tu prends un parcours de classique, enfin un mec qui est capable, ce qu'a fait Van Der Poel cette année par exemple, c'est très très fort. Après, on peut toujours dire aussi la concurrence aussi, machin, tel est pas là, tu vois, c'est la même chose.
Mais son équipe est contente, par exemple, à Van Der Poel, qui t'a fait une saison de classique de dingue. Si elle foire son Tour de France, c'est pas grave, elle aura fait les classiques.
Elle n'a pas
le même profil du tout.
Ouais, elle n'a pas le même profil.
Pas le même profil, je veux dire.
Elle vient de gagner les étapes.
Grosso modo, si tu prends les 8 coureurs, il y en a 5 qui font du cyclo-cross.
Ouais.
Tu vois, au départ, c'est une équipe de cyclo-crossman. Et en fait c'est des flahuts, c'est des mecs qui sont sur les classiques. Ils viennent là pour engranger des étapes. Voilà, clairement. Ils ont personne pour le général.
D'accord, mais du coup, c'est pour ça qu'on voit ce bus.
Par contre, faut que ça engraine.
De la Visma, voilà, qui gagne pas, qui foudrage.
Ah bah oui.
Et ben là, tu te dis, eux, c'est pareil, ils doivent aller prendre de l'étape. On a compris, c'est pas le classement, mais c'est l'étape. Donc,
comme une équipe française, comme AG2R cette année, a des ambitions générales avec Félix Gall, et aussi d'aller chercher des étapes. Je veux dire, il y a des équipes qui vont jouer un peu sur tous les tableaux. Il y en a
Félix
qui vont
Gall.
Vraiment.
Ah, tu m'intéresses. là, je retiens.
Non, mais
là.
Ça dépend du profil des équipes, des coureurs, et puis de ce qui sont. Enfin, il y a une réalité aussi sportive, c'est-à-dire que c'est sûr que quand t'as la UAE qui a un budget limité, Visma qui est pratiquement dans le même cas de figure, on est aussi sur un sport, un budget maintenant au niveau des équipes qui est faramineux. C'est-à-dire que c'est la Ligue des Champions tous les jours, quoi.
C'est pas
quand même trop comparé avec la 18e équipe de Ligue 1. Tu vois, tu cours pas dans la même cour, donc tu tires ton épingle du jeu sur les étapes que tu vises avec le profil de coureur que tu sélectionnes. C'est compliqué.
Et là, tout le monde sait tout maintenant, là, dans les équipes, à savoir qui vont être les 10 qui vont y aller, les 8 qui vont y aller. Parce qu'il y a eu une bagarre féroce aussi avant, quoi. Parce que c'est quoi une équipe pro? C'est 20, 25
Ça dépend des structures.
Et tu te dis, toi, tu vas faire le Giro parce que bon, t'es bon, mais peut-être pas assez pour le tour. Toi, tu vas faire les classiques et ainsi de suite.
On a eu l'exemple avec la FDJ, avec Martinez, qui n'était pas programmé pour le tour, mais pour la Vuelta, et qui finalement est sur le tour.
Ouais. Mais ça a l'air déjà d'être une lutte tellement intestine, et puis pour toutes les équipes, de savoir rien que se qualifier pour être dans les 8.
Je pense que c'est plus subtil que ça, parce que, enfin, on va prendre l'exemple de Martinez, je pense que c'est peut-être un petit peu comme il va partir, il va quitter la FDJ, je pense que c'est aussi pour le
petit coup de pression.
C'est ça.
Ne l'oublie pas. Et t'avais qui là en français là, à la Vuelta, qui avait brillé là
l'année dernière?
Qui prend le maillot pendant...
Bah justement, Martinez.
C'est le petit Martinez, il a pris le maillot de jour.
Et donc ça peut taper un peu, ça?
Bah non, là, parce que là, c'est une petite sanction. Il devait pas faire le tour, il le met sur le tour alors qu'il sort d'un tour de Suisse, je crois, qui est assez pourri.
Alternatif, on va dire.
Et c'est aussi pour le mettre un peu devant ses responsabilités. Et puis, s'il peut se cramer devant tout le monde, je pense qu'il y a quelques dirigeants et coureurs de la FDJ qui seront assez contents.
Aïe, 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 aïe. Et on va devoir faire sans Thibaut.
Ah oui, ah bah oui. Ah bah justement, si, sur Eurosport, il y a actuellement un reportage sur le virage Thibaut Pinot.
Fou.
Phénoménal pour les amoureux de vélo ou même ceux qui n'aiment pas le vélo. Regardez-le parce que c'est fantastique.
Mais c'est fantastique. Mais t'as raison, ouais, ce qu'il a vécu ce type. On en avait déjà parlé à l'époque avec Yoko et toi, Fred, des départs. Donc t'as fini ton sport. Quel départ tu veux ? Alors les deux, ils m'avaient joué une fausse modestie. Non, très simple, très humble. Là, tu vois Pinot, il passe dans ce virage. Ça doit être dingue de chez dingue quoi. Et après c'est marrant parce qu'après donc il bascule dans la descente et il dit bah t'as plus personne et t'as encore le bourdonnement dans les oreilles et tu t'es sur un autre monde.
T'as envie de remonter dans l'autre sens.
Ouais, et puis si on retrace Thibaut, si on retrace toute sa saison, c'est-à-dire qu'il a fait le Giro, il était prévu sur le Giro.
Ouais.
Puis finalement il devait pas faire le Tour de France. Finalement il fait le Tour de France. Ouais. Il galère pour essayer de choper les échappées, il voulait vraiment gagner son étape. Ouais, et là, l'avant-dernier jour, enfin grosso modo, la dernière étape qui vaut quelque chose, quoi, parce que les Champs-Élysées, c'est quand même plutôt particulier. Et là, le scénario, il n'est pas dans la bonne échappée, il revient dans l'échappée, et après, il ressort. Et puis bon, il se fait reprendre par là, sur la fin, mais c'est vrai que ça résume parfaitement sa carrière. C'est ça qui est énorme.
Oh, fabuleux. Et puis ce panache d'aller chercher son virage tout seul, c'est génial. C'est génial. Parce que c'était pas des bons de sortie, c'est pas un bon de sortie qu'on lui a laissé.
Non. Bah non, de toute façon, si la Visma derrière a roulé, c'était pour essayer de choper l'étape. Après, c'était un autre coureur qui avait tiré son épingle du jeu.
C'est génial. Voilà. Vive le vélo, on va se régaler.
On t'en fera un entre la rue Bellesort et la rue de Paris.
Il y a combien de personnes dans le virage? 3. Maman, tu peux venir, s'il te plaît. T'as donné tes 3, toi, Pascal, là?
Pour le général?
Ouais.
Non, mais je veux pas faire très original.
Non.
Moi, je verrais bien Pogacar, deuxième.
Tu mets Pogacar.
Moi, je mets Pogacar, deuxième, je verrais bien Roglic, et puis je verrais bien Evenepoel 3, et je pense que Vingegaard va prendre un tir.
Ah ouais? Ah là, tu te mouilles, ça me fait plaisir, putain. Ah ouais, d'accord. Fred, toi, t'as tout prévu aussi.
Moi, je mets pas Evenepoel sur le podium, parce que je pense qu'il va exploser en montagne. Donc, il y aura effectivement Roglic, il y aura effectivement...
Roglic, il va revenir sur le pod,
Il y aura Pogacar, mais moi, je mets quand même Vingegaard, je pense.
Il y avait une telle marge. Tu lui enlèves 4 côtes, ça doit aller, lui, quand même.
Une demi-jambe.
Je parle des côtes dans le corps.
Tu parlais de, tu sais, comme le sport hippique, tu mets du lest, et lui, tu lui mets un pneumothorax. Une fracture de l'omoplate, une fracture du sternum, une fracture de la clavicule, et puis on verra si ça va ou quoi.
Et ça ira très bien. Bon, si vous avez du pognon à mettre, misez plutôt sur Pascal que sur Fred.
Vous serez déçus. Vous serez déçus une nouvelle fois.
On n'incite pas au jeu d'argent, bien entendu. Fred, mon ami, je vais te demander que faire là quand on est mayenné l'été. Toi, tu l'es depuis gamin. T'en as passé un peu des étés tout seul. Alors évidemment, tout le monde part un peu à droite à gauche pour les vacances, mais tout le monde n'a pas les vacances à rallonge non plus. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve un peu parfois tout seul.
Seul,
pendant une bonne quinzaine de jours ou 3 semaines.
Ouais, ou 2 mois. Quand t'es un vrai mayenné, tu es seul 2 mois.
Qu'est-ce qu'on fabrique ? Bon, mon Fred, là, dans le département. Me fais pas une gueule, y a rien à faire.
Le moment RTA, mais ça dépend. Moi, j'étais jeune et sans argent, donc j'ai fait beaucoup de murs à Bonchamp au tennis.
Génial.
Et j'ai fait du mur. Et je jouais. Alors s'il m'entend, j'espère s'il nous écoute, je jouais avec Jérôme Leroyer tous les jours au tennis. Et c'était notre matinée tennis. On se faisait 2-3 heures au tennis. Et derrière, on rentrait déjeuner et étape du tour. Étape du tour intégrale.
Ouais.
Et voilà. Et c'était ça tous les jours. Tennis. Parce que faut pas oublier, il y a Wimbledon qui va démarrer aussi.
Évidemment.
Et voilà. Et et je finissais fin août. C'était l'US Open du coup. Donc et c'était donc le soir parce que c'est aux États-Unis et c'était sur Canal donc encrypté. Donc fallait être salement motivé. Mais voilà, je suivais parce que j'avais la radio puis j'avais les images encryptées. Et génial quoi, toute une jeunesse.
Fabuleux. Parce que toi, Pascal, t'es du bord de mer. Angleterre.
Ouais, c'est ça.
On va considérer que
bon, Bretagne est bien entourée quand même de la au niveau de la mer, on est jamais très loin. On est jamais très loin.
Donc forcément ça paraît un petit peu plus attrayant, mais comme elle est tellement froide, faut s'occuper aussi qu'est-ce que tu faisais toi pendant ces longs mois d'été mon Pascal là ?
Vélo le matin et plage l'après-midi.
Voilà, bon, oublie la plage, mais du coup ça vous laisse ça messieurs les Mayennais, ouais. le département est magnifique, donc on peut aller rouler, ça c'est un truc qu'on peut faire solo, ça va
Non, j'ai le Mayennais, tu le reconnais bien aussi. À la fin des vacances, quand il enlève son polo, il a les vraies traces du tennisman, tu sais, où il est bronzé entre le poignet, parce qu'il a le serre-poignet aussi à l'époque, le serre-poignet à la Yannick Noah.
Ouais, c'est bien.
Et la manche du polo, donc là, il est bronzé sur 30 cm autour du cou, autrement, il est blanc de chez blanc. Et c'est. Génial. Voilà, tu sais que tu es mayennais.
Génial. Vous voulez un peu d'eau en Mayenne, vous allez où? Vous voulez un peu de sport aquatique?
Alors à l'époque, on allait à Getzel.
Ouais, Getzel. Ouais, Getzel, ouais. Getzel, ouais, ouais. On est à 35-40 ouais, minutes de Laval, au-dessus d'Evron. Ouais.
On pouvait pousser à Coco Plage, Cyril Guillaume.
Coco Plage, ouais. Ouais, là, ouais. Fallait déjà les moyens. Là.
Je ne vous raconterai pas un grand moment de solitude une fois à Coco Plage, mais je ne vous raconterai pas.
Si vous êtes gâtés, peut-être tout à l'heure. Mais moi, j'en reviens du Getzel. Je suis allé cette semaine avec une classe. Et bah, c'est vrai. Alors attention, hein, parce qu'on n'a pas encore commencé les micro-algues, les micro-bactéries, ouais, voilà, les micro-machins.
Ouais, ouais. Les sangliers morts,
voilà.
Tout
voilà,
ça,
les sangliers morts. Pour l'instant, ma dermato n'est pas encore tout à fait alarmée. Mais toujours est-il, écoutez, ils vous sortent, bon, il faut payer, hein, c'est normal, mais ils vous sortent le Zodiac, vous avez la bouée tractée, c'est génial. Ils vous sortent le, comment on appelle ça, là, quand on est sur le wakeboard,
ouais,
là,
ouais,
là,
ouais, ouais, fait, ouais.
C'est génial. Ouais. Les amateurs de voile, bah, il y a les catamarans, il y a les petits topeurs, les petits machins. C'est très, très sympa. Et bon, l'eau n'est pas extraordinaire, hein, on le redit, ça fait pas rêver, c'est sûr, mais. Bon, s'il y avait des problèmes sanitaires, on le saurait. Donc
Non, mais c'est vrai que pour les Mayennais, pour les enfants, il y a plein de spots. Hein. Tu vas à Saint-Denis-du-Maine pour les tout-petits, pour découvrir, faire de l'optimisme et tout, voilà. C'est jouable.
Voilà. Voilà. T'as la haie traversée.
Ouais,
avec,
la rincerie qui fait du wake, du wake park.
Qui fait du wake, mais la haie traversée, ils font ce qu'on appelle aussi les structures gonflables maintenant,
Tu
te marres
sur
la place. C'est génial, ouais. Et il faut y aller, c'est vraiment top. Et l'eau et à 28 en ce moment au Getzel. Donc vous baignez, mais vous rentrez dedans, c'est de la rigolade. Ouais. C'est de la... Alors que je crois qu'en manche, elle est encore à 12.
Ouais. Bah ouais, elle vient de monter. Hein, vient, ça.
Elle vient de monter.
12, c'est bien.
12.
Fin de saison. Mais beaucoup d'activités. Alors à mon époque, il y avait encore des barrages sur les rivières. Donc on se baignait aussi sur la Jouanne, pour ceux qui se souviennent, à Pochard. On faisait du canoë dessus. Ouais. Moi, je faisais du canoë sur la Mayenne. On se baignait dans la Mayenne aussi. Maintenant, c'est interdit, mais à l'époque, tout le monde le faisait.
Toi, tu dois être un peu menteur, parce que le panneau, c'est l'arrêté. Il est de 58.
Ah ouais, mais je peux dire que tous les Mayennais, t'allais faire du canoë, tu te baquais dans la Mayenne, etc. Ouais. Non, ouais. Pochard, tu pouvais plonger du pont. Alors, je vous déconseille maintenant, parce qu'il y a 20 cm de fond maintenant, depuis qu'il n'y a plus de barrage. Donc, à éviter.
Ouais, bah plein de choses donc à faire. Qu'est-ce qu'on fait d'autre en Mayenne On va à Sauge, évidemment, dans les grottes, pour prendre un peu de fraîcheur. Ouais,
on se fait le halage, on se fait la voie verte.
On se fait le halage, c'est pareil, là, il y a fraîcheur, vous pouvez courir, vous pouvez faire du vélo, ça c'est top. Les sports co, on oublie un peu, hein, comme on est un peu tout seul.
Ouais, c'est sûr. Dans ta tête.
On regarde la télé aussi, parce qu'entre Wimbledon, Tour de France, Jeux Olympiques, ça va passer très vite l'été.
C'est sûr.
Wimbledon.
Bon, vous voyez, plein d'idées.
Grande année, Wimbledon, là. On fait quoi, là?
Wimbledon, on fait le titre
de
Roger Federer, son
dernier. Non, 84, John McEnroe.
John McEnroe. Ah, il est important celui-là, ouais.
Ah, bah oui, c'est une année exceptionnelle où il ne perd que 3 matchs dans l'année, il fait 15 tournois, 15 finales.
Ah ouais.
Dont 13 victoires. C'est la fameuse année aussi où il perd en 5-7 contre Lendl à Roland Garros.
Ouais, dans une bonne ambiance, je pense.
Ouais. Et de mémoire, si je ne confonds pas avec 83, il met une tôle monumentale à Connors en finale. Je crois qu'il met 1-1 et 2. Ou quelque chose comme ça. Le gars est injouable. Polo Tacchini, noir et blanc. Enfin, vous reverrez. Allez voir les images.
Le monde du tennis.
Le gars est fabuleux, quoi.
Connors, on n'a pas parlé ça tout à l'heure de O'Connor.
Non, il était sur le Giro et il ne sera pas au Tour de France.
Parce que là, ah ouais, il ne sera pas au
Tour de France. Non, prévu Vuelta.
C'est pareil, dans ce fameux reportage, allez voir sur le replay, évidemment. Ils sont souvent dans la bagnole des directeurs sportifs et le directeur sportif est fada dans la voiture qu'il est là. Putain, mais sors. Enfin, ça, c'est un truc, ils ont l'air de vivre des moments cinglés. En plus, ils doivent conduire en même temps. Donc,
la sécurité routière, là, ouais, c'est pas.
Ouais, C'est assez bizarre. On se retrouve juste après la coupure musicale, messieurs. C'est peut-être Pascal qui va vous donner la musique aujourd'hui. On va se mettre d'accord entre nous. Qu'est-ce qu'on a après, évidemment, du championnat d'Europe
un petit peu.
On continue sur la Mayenne, la note 53 qu'on aime, qu'on adore. À tout à l'heure sur Sport Épique, messieurs dames. Shakare petaranore rindimanam shakare petar di hamanchimanam shakare petaranore rindimanam shakare pet namrodem kamoranda. Continue nous messieurs là, après cette petite coupure musicale, vous êtes toujours bien, vous êtes sur Sport Épique évidemment, il est 11h30 ce matin, on se balade, c'est génial. Du McEnroe qui nous revient sur des petites anecdotes là pendant ces coupures, c'est formidable. On a d'autres duos mythiques bien sûr sur ces années là, c'était donc Lendl, quasiment à Lavallois, parce que c'est presque un palindrome aussi lui son nom.
Pas mal.
Tu vois, et sur les Lavallois, moi je lis en ce moment, je lis un petit peu la légende du stade Lavallois par Jean-Marc Miton, notamment. Donc il parle Michel Le Millinaire, et il dit que Aimé Jacquet disait de lui que c'était le meilleur entraîneur de France.
Ouais, c'était une grosse référence. Hein.
Mais c'est dingue. Quoi. On se rend compte parce que maintenant moins les générations, mais on voit son nom un petit peu partout, donc on a bien idée que ça a dû être un monument, mais apparemment, dans le milieu du foot, c'était Monsieur Football.
Ouais.
Quoi. C'était,
bien sûr.
Et il a des titres puisqu'il prend le meilleur entraîneur de Ligue 1 à 6 années d'intervalle. Il prend 79 et 85, je crois, quelque chose comme ça. Et il prend en Ligue 2 également. Donc putain, c'est fou quoi. On a eu une star absolue dans notre cher, évidemment, Stade Lavallois, qui on souhaite le meilleur, comme toujours, pour l'an prochain. On est dans le football, on reste dans le football, bien entendu, on s'ennuie. on s'ennuie dans notre championnat d'Europe là. Est-ce que c'est la formule? Est-ce que c'est ces 75 clubs là au premier tour du championnat d'Europe qui posent souci? Parce que c'est vrai que ça intéresse qui de jouer la Roumanie du Sud, le machin. c'est Sopo et Fico possible. Le fait qu'il y ait 3 qualifiés par poule, bon bah t'as même plus besoin de jouer en fait, t'es qualifié. Et après faut juste jouer sur quel tableau je vais arriver quoi.
Ouais c'est ça. Non mais en fait on est déçu des grosses équipes.
Ouais.
Par contre, on découvre d'autres nations. On découvre rien.
Mais
si, on découvre la Slovénie.
Bah, tu disais, c'est pareil dans les spéciales tout à l'heure. S'il n'y a pas les gros cadors qui s'affichent, bon, ben le vainqueur,
ouais, mais
il a moins d'importance.
Ce qui est quand même très intéressant. Alors, bien évidemment, pour le grand public ou le grand spectacle, bah, on va attendre les matchs à élimination directe. Mais tu t'aperçois quand même que des nations comme la Slovénie, Géorgie, etc., ça joue très bien au football. Ça joue au football, ils s'arrachent et tout. Alors bien évidemment, ils ont globalement moins de joueurs aussi talentueux que les grosses nations. Mais tu t'aperçois que globalement, le niveau moyen est quand même très très élevé quoi. T'as plus d'équipe où t'as des gars qui font des contrôles improbables, etc. Là, tu sens que c'est il y a du niveau quoi.
Par rapport à jeudi soir. Avec la fameuse équipe départementale du PEPS, justement. Un niveau d'écart, quand même.
Légèrement. Bon, nous, on a eu un bon contrôle de Miguel, on le salue. Lui, il était étonné, tout le monde s'est arrêté.
On avait tous misé sur un mauvais contrôle.
Ah ouais, enfin, contrôle classique, quoi.
Ouais, contrôle
à 2 mètres. Ouais. Et là, il est resté sur la chaussure, même Miguel s'est arrêté, quand même.
Si vous avez la chance encore de vivre ça vers 50 balais entre potes, avec des petits foot du jeudi soir, c'est fabuleux. Mais nous, on n'en est pas là, on est dans le championnat d'Europe pour l'instant. Notre équipe de France, c'est comme d'habitude.
C'est un peu plus inquiétant que d'habitude.
C'est plus inquiétant que d'habitude.
Je sais pas.
Ouais, moi non plus.
Coupe du monde, Tunisie, tout le monde est au fond du seau. On va se faire sortir et puis voter jusqu'en finale. Donc je sais pas.
Mais oui, on est toujours inquiet et puis ça va toujours. Donc le débat est pas forcément pas là. Le débat est une fois de plus. Dehors quoi, des champs stop quoi. Si t'es pas capable de nous proposer un meilleur football que ça, vas-y, ça suffit, mais on va pas continuer. Hein.
Ouais, mais dans ces cas-là, tu vires tous les sélectionneurs parce que les Anglais qui ont une équipe de folie sur le papier, c'est moche.
Ouais, c'est moche.
Les Belges, on en parle pas, c'est très très moche.
Il ouais.
Y a beaucoup d'équipes, les Italiens, c'est laid. Il y a que les Allemands qui ont fait deux rencontres bien et l'Espagne.
Ouais.
Mais encore pas tous les matchs l'Espagne. Donc ouais, je pense que c'est aussi c'est stratégique, ça dure longtemps. Comme tu dis, faut t'auto-éliminer quasiment si tu veux pas aller en 8e.
Ah bah c'est sûr.
Donc ça va commencer demain la vraie compétition et c'est là qu'on va voir si les équipes cachaient leur jeu ou si en fait non, elles sont vraiment au fond de la mine quoi. Après les saisons sont super longues. Tu sens pas une motivation de folie non plus sur les premiers matchs quoi.
Bah c'est super quoi. T'as le coq sur la poitrine, t'as machin, bah tu sens pas une motivation. Mmh. Enfin moi je peux pas entendre ça.
On en a quand même Kanté qui lui il est motivé pour tout le monde.
Il a pas joué de l'année donc.
Ouais, c'est pas faux non plus. Ça fait même
ans, pour un mec qui a pas joué, il est quand même talentueux. Hein.
Sacrément. Alors là pour le coup sacrément. Bon faut pas le mettre devant le but non plus lui.
Mais ça fait pas partie de ses caractéristiques. C'est toujours pas mal.
Mais même lui il est étonné. Il dit comment ça se fait que j'arrive jusque là. Ça veut dire que tous les autres sont à l'arrêt quoi.
Toutes ces passes sont parfaites jusqu'aux 15 derniers mètres. Tu me diras, évidemment, c'est le plus dur.
Ouais.
Mais là, il fait n'importe quoi, un peu à la Dembouze.
Ouais.
Mais lui, c'est son rôle.
C'est ça. Lui, il vient de faire 50 mètres en récupérant le ballon, en faisant pas mal de choses.
C'est vrai. Mais quel enfer d'être sélectionneur. Alors là, on est en plein, en plus, dans les élections. Quel enfer d'être Premier ministre, d'être président et ceci, cela. T'es critiqué de façon, quoi qu'il advienne, t'es critiqué. Là, sélectionneur, c'est pareil. Je suis le premier à taper dessus. Est-ce que je ferais mieux? Certainement pas évidemment, mais
est-ce que tu sélectionnerais d'autres joueurs qui sont sélectionnés là?
Pas forcément, mais ferais jouer.
Tu jouerais peut-être différemment.
Voilà,
ouais.
Exactement. On ferait jouer certainement différemment, mais c'est pareil. T'es entraîneur de club, t'as ton équipe toute l'année, tu les fais tourner selon tes schémas à toi. T'es sélectionneur, c'est complètement différent, quoi. Les mecs, ils arrivent de Porto, ils arrivent de Paris, ils arrivent de Londres. Tu sais pas comment une mayonnaise prend.
Non, mais
elle prend pas.
l'aspect tactique de Deschamps, enfin je veux dire, ils le découvrent pas les joueurs, donc on sait à quoi s'attendre là-dessus.
Ouais, mais t'alignes quand même trois monstres à l'avant.
Ouais, c'est ça aussi, c'est ça qui est surprenant, c'est que souvent on dit ouais, il a un joueur restrictif, bah ouais, mais là il aligne, il a fait du 4-3-3 avec trois joueurs qui sont normalement hyper rapides, hyper dribbleurs, donc normalement on est censé avoir du spectacle. Et c'est ces trois-là qui donnent strictement rien.
Et qui contredisent ce que je viens de vous dire, parce que là, on vous donne trois du même club. Là.
En plus,
On vous donne trois du même club. Donc, ils sont censés
avoir des automatismes, etc.
Ce qui est le cas par moment, quand même. Hein. On peut pas tout jeter.
Comme tu le dis, Fred, aussi, les équipes en face, elles sont homogènes. Je veux dire, ça défend très bien.
Ça défend bien.
Ouais, puis on
défend très bien. Vrai, après, elles profitent pas non plus de failles à l'inverse, les autres équipes. Donc, en fait, ça fait un jeu très stéréotypé et très aseptisé, en fait.
Puis on sait pas si les gars ils sont à 70%, 80%, on sait pas s'il y a des blessés, on sait pas s'il y a des gars qu'on ménage. Donc en fait, c'est toujours la même problématique.
Bon, bah alors pourquoi on vit des moments extraordinaires à partir des 8e et même avant
match parce que c'est les matchs élimination.
Attends, de Ligue des Champions. Moi, j'ai l'impression de vivre toute l'année l'extraordinaire quand je regarde la Ligue des Champions. Là, on est au championnat d'Europe, c'est un mois. Bon, bah les mecs, faites-moi un mois de bonheur.
Non, mais t'as du super contre-exemple. Cette année, match de poule de Paris, c'était pourri en Ligue des Champions. Les quarts de finale ont été fabuleux, mais à partir des demi-finales, les matchs ont été moyens.
Moyen, t'es exigeant.
Je pense que ça dépend aussi énormément de l'état de forme des joueurs. Et puis, encore une fois, on ne sait pas ce qu'il y a dans les groupes. On ne sait pas si. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont fait toute cette saison-là. Si on prend dans les Français, il y en a beaucoup qui sont des très très gros clubs qui ont joué jusqu'au mois de mai. Quoi.
Ouais.
Donc, il y en a qui sont un peu rincés. Il y en a effectivement. Je pense que ça, jouer l'Autriche et la Pologne, ce n'est pas ça qui les fait rêver.
Ouais, mais si tu ne peux pas dire ça, Fred.
Mais si, parce que les gars, ils savent qu'ils sont qualifiés de toute façon. Bon, tu te dis, voilà quoi.
Ah, je pense que certains ont dans la tête de pas se blesser, tu vois, pour vraiment faire partie du second tour.
J'arrive pas à croire ça. Rentrer sur un terrain en se disant ça, c'est pas possible. C'est con à dire, mais le fameux, plus tu veux te préserver, plus t'as des moyens de te blesser. Ben, je pense qu'il est pas loin déjà d'être vrai. Et puis, je pense que personne rentre sur un terrain pour se dire, je vais jouer quoi, moitié quoi. Ben non, place, elle peut sauter à tout moment.
Ouais, mais tu vois, dans l'organisation d'équipe, parce que tu te dis, malgré tout, on a une charnière centrale qui est pas mal. On a retrouvé N'Golo Kanté et Rabiot, où c'est très fort. Bah, tu dis qu'en fait, il suffit de pas grand chose pour que ça prenne bien, quoi.
Ouais, oui, c'est
donc,
sûr.
Donc, quand Dembélé, il arrêtera de s'auto-dribbler.
C'est sûr.
Ça fera peut-être des choses. Quand Mbappé, il sera, parce qu'il a aussi, un nez en moins, des choses comme ça, ça te secoue un peu quand même, quoi. Ouais. Donc, non, ça peut prendre, comme ça se trouve, demain soir, c'est fini, quoi.
C'est con que le foot soit pas un sport individuel, parce que je pense que Dembélé est le meilleur joueur du monde. Moi je trouve que c'est le mec le plus improbable au monde.
Bien sûr, mais même lui il se surprend l'autre match il fait toute une première mi-temps, il tire tout du gauche, après il tire que du droit, il a dû se dire en fait je suis pas gaucher. Alors,
et à un moment tu vois Barcola de l'autre côté, c'est pareil, le type il a peut-être 50 cm de retard au moment où il commence son dribble, et ben 3 mètres plus tard, il a 1,50 m d'avance. Mmh. Mais c'est quand même complètement hallucinant que sur 3 mètres, le gars te récupère tout ça. C'est fabuleux, t'as des mecs fabuleux, mais pour un sport individuel. Quoi.
Ouais, mais je vais défendre aussi Dembélé, parce que c'est vrai que les gens, on lui tombe souvent dessus. Sauf que, il se cache jamais.
Jamais.
Et deux, il cavale comme un fou.
C'est clair.
C'est ça aussi, parce que comme le jeu est très stéréotypé et que lui c'est le seul à être peu improbable, en général on lui file le ballon puis débrouille-toi.
Ouais.
Alors on n'est pas content quand il a dribblé deux mecs et que finalement il fait un centre. Mais faut pas oublier qu'il vient de faire 40 mètres de course.
T'as raison.
Il est rincé. Bon, et en plus il sait pas s'il est gaucher droitier, donc il faut et donc il tape dans le ballon, bon regarde ce que ça donne. Et aussi 9 fois sur 10, il y a personne en surface, donc le pauvre vieux
Et tu sais, si on en revient toujours à toi Pascal, bien sûr, on s'est plaint de toutes ces années vélo stéréotypées, on court à l'oreillette, on court au cardio, on court maintenant au watt, on court et ainsi de suite, tu sais exactement quand tu dois couper ton effort, commencer ton effort et ainsi de suite. Là, c'est tellement un peu pareil, le foot, c'est devenu tellement un jeu stéréotypé. On passe par les milieux, par ceci, par cela. Ben là, t'as un génie. Là, t'as un pur génie. Il va démarrer, on sait pas. On n'a aucune idée de ce qui va se passer. Et comme tu disais, lui, il est pas trop sûr non plus de savoir. mais par contre, t'as sur chaque action, t'as quelque chose. T'as un éclair, quoi.
L'exemple contre la Pologne, il fait une première mi-temps catastrophique, mais vraiment dégueulasse. Et il fait un premier quart d'heure en deuxième mi-temps, mais là, il est transformé. Bon, ça dure qu'un quart d'heure, parce qu'après, il redevient dégueulasse. Mais le mec, et je le dis toujours, ça doit être génial quand t'es sélectionneur. T'as rien à lui dire. Ah ouais. Ousmane, bon non. Bah si, alors tu cours dans ce sens-là, et après, bah.
Et la mi-temps d'après, faut marquer dans le.
Et ça, c'est génial. Quoi.
Génial. Mais alors, quand t'es défenseur latéral, pour le coup, enfin, toute la ligne de défense, même tu me diras. Tu dis, bon, allez, j'en ai fini avec Dembélé, c'est bon, là, il m'a mis la misère de A à Z pendant 70 minutes. Qu'est-ce qu'on me propose ? Un Coman qui va rentrer.
Ah, qui va 10 000 aussi.
Qui va te briser les reins si qui va demain. L'autre côté, on t'a sorti machin, on va te faire rentrer Barcola. Barcola, ouais. C'est un génie pur aussi. Et tu te dis, bah, ça, c'est terrible. Quand tu dis, bah, les mecs, combien on nous en rentre comme
ouais,
ça ?
C'est vrai qu'on est, on est très, très bien pourvus.
On est pourvus. En attaque, et tu sais, quand. Quant à ce rôle de défenseur, c'est ça, c'est d'user ton attaquant pour que, au bout d'un moment, il soit plus efficace et machin. Bah là, sauf que oui, on va te sortir un génie pour un génie peut-être encore meilleur. Alors c'est ça doit être dur psychologiquement dans les tronches, je pense. Vers où on va nous la suite ? C'est de la Belgique, ouais. C'est de la Belgique. C'est lundi, c'est demain. Mmh. On part confiant, on part. Ouais, Pascal enfin, moyen, toi, t'as dit.
Non, si. Moi, je pense qu'il pas sur le papier, ils sont favoris.
Ouais.
Pour moi, après, c'est effectivement, ça peut faire 0-0 prolongation, un pauvre but, et puis ils se qualifient. Je suis pas sûr qu'on verra un match flamboyant, mais pour moi, ils vont se qualifier.
Ouais, ça va passer, ouais.
Wow, ouais
et sachant que tu bats la
ça
Belgique.
Dépendra de De Bruyne, surtout. Ouais. Qui a encore une dent dure contre 2018, donc je pense que ça dépendra de son esprit revanchard, ouais. Surtout. Ouais.
Mais il va falloir qu'il soit plus en forme que ce
voilà,
qu'il a montré.
Il va falloir qu'il monte davantage, ouais. Parce que c'est poussif. C'est poussif.
Et pour le coup, là, quand on te disait tout le temps Deschamps a de la chance et ainsi de suite, là, ça pouvait pas être pire que la Belgique.
Ouais, mais là après, je pense que ce premier tour, ils ont des équipes qui défendent et puis les mecs ils s'engagent ouais. Pas. Là, ils savent que voilà, il y a 90 minutes à jouer et il faut y aller quoi. Et puis il y aura plus d'espace parce que la Belgique ouais. Aussi, quand même, une équipe qui joue. Si elle se débrouille bien, donc il y aura beaucoup plus d'espace, il y aura plus de profondeur.
Franchement, il vaut mieux jouer les Belges que les Turcs par exemple, parce que si jamais tu perds contre les Belges, bon, c'est une équipe qui est reconnue. Ouais. Super contre la Turquie, ça fait plus
la
désordre.
Géorgie,
alors,
oui.
Alors que l'équipe turque peut être une équipe
très
redoutable. Ouais. Donc ouais. Non, c'est plutôt un bon tirage. Surtout, c'est ce qu'ils attendent derrière. Quart, demi, puis éventuellement, là, c'est
qu'est-ce
vraiment...
Qu'est-ce qu'il y a après, là ? On va vers quoi, après ?
Eh bien, alors, si je n'ai pas de bêtises, on est dans le tableau de l'Espagne, le Portugal et de l'Allemagne, je crois.
Ouais. Bon, tu me diras Portugal qui a perdu aussi contre la Géorgie.
Ouais, enfin, ils avaient ouais. L'équipe, ouais. Il y avait des gars des finances qui jouaient.
Avec équipe C. Ouais. J'en reviens, moi, à mon cheval de bataille, à savoir, bah, là, encore plus, moi, j'ai l'impression qu'on a les trois meilleurs attaquants. Non, t'as l'autre qui est fabuleux, là. Un Allemand métis
Moussiala
ouais. Oh, Moussiala c'est du Barco c'est du ouais. C'est du Dembélé quoi
c'est moins imprévisible
ouais tu crois ouais,
ouais. Ah, ouais, wow, ouais. Lui c'est à peu près ce qu'il fait quand,
ah,
il,
ouais,
quand il commence son action il sait
quand il part à 70 mètres ouais. Qu'il a quand même 4 ou 5 mecs devant lui ouais. Et ben bah, il y va ouais. Hein, le gars il y va et puis bon bah ça passe donc pour l'instant continue à y aller mon gars mais c'est pas ça que je voulais dire c'était que avec cette fameuse et c'est le reproche que j'ai fait moi pendant les qualifs et la précédente coupe du monde c'est avec ces joueurs fabuleux que t'as devant avec qui ont certaines caractéristiques c'est qu'il faut les envoyer en profondeur bon bah défends bas récupère des balles et laisse partir des flèches derrière si tu veux un jeu de possession ben forcément tu vas te faire contrer à un moment et c'est toi qui vas subir les contres et c'est vraiment pas malin et je pense que si les Belges ben ils sont plus futés que nous ben ils vont attendre tout simplement quoi. Ils vont attendre. Nous, on va s'épuiser sur la défense, et puis ça va aller très bien pour les Belges, quoi.
Ouais, mais c'est en gros ce qu'ont fait les adversaires du premier tour. Les Pays-Bas, contre la France et les Pays-Bas, ils voulaient pas relancer, donc ils se faisaient des passes dans la surface de réparation pour vraiment être très très bas.
Ouais.
Il manquait que Laurent Huguet pour être juste devant la
ouais,
ligne de but.
Ouais,
et...
Hommage.
Ouais. Mais voilà. Donc les équipes le savent. Après, sur les matchs à élimination directe, faut quand même gagner, quoi. Donc il va falloir qu'ils se découvrent aussi les autres équipes, quoi.
Oui, mais gagner, nous, on va pas gagner en faisant des passes. On est.
Ouais,
mais
nous, on va attendre. Hein. Je pense qu'on va.
Ah, je sais qu'on va pas attendre. On va pas attendre.
Ah, bah,
parce
qu'on
n'a pas l'intelligence d'attendre.
Ah, si. Bah, on l'a fait. Tu sais, à chaque fois qu'on a gagné, c'est comme ça qu'on a joué. Hein, donc.
Après, je pense qu'ils ont bien compris que leur style de jeu, c'est mettre Griezmann un peu plus bas et donc du coup avoir un bloc plus reculé. Et donc, il y a des fortes chances que ça finisse comme d'habitude par jouer comme ça. Donc, effectivement, ils auront les possibilités de relancer vers leurs attaquants.
Mais c'est comme ça qu'on gagne avec Deschamps. C'est comme ça qu'il va jouer sur les matchs coup près.
Oui, mais parfois il se dit tiens, je vais prendre de la possession. Ben non, la possession, c'est pas ton jeu. Ah, là, je fais le parallèle peut-être. C'était avec Paris qui devait aller. C'était contre Barcelone ou machin. bon, il y a cet expulsé à un moment, mais Paris qui se met à jouer, bah, ils se mettent à jouer, sauf qu'on prend un but, logique, au Camp Nou. Mais c'était écrit d'avance d'avance, et après il y a cet expulsé qui change le match. Et ben là, moi j'ai peur de ça. Bah tiens, on va se réinventer joueur. Bah non, on va pas se réinventer.
C'est
joueur.
Pas le genre.
Ça fait plus de 10 ans que tu nous emmerdes, Didier.
Ouais, mais il gagne.
Ah voilà, ouais.
Ah bah.
Ça me suffit plus. Ça.
C'est vrai.
Bon, en l'occurrence, là on gagne pas, tu vois. On sort,
Non, mais tu sais, c'est comme en vélo, hein, tu peux mettre 50 attaques et partir à 120 bornes de l'arrivée. Hein. Ce qu'on retient, c'est celui qui a franchi la ligne en premier. Hein. C'est toujours pareil. Hein.
Bah ouais, mais vous êtes minimaliste en vélo. C'est ça votre problème.
Non, pragmatique.
Non, parce qu'on aime les. Non, mais on l'a dit, si tu veux avoir un virage à ton nom, faut partir à 120 bornes et attaquer dans tous les sens.
Ouais. Ah, je pense que pour avoir un virage à son nom, c'est pas que courir à l'envers. Il y a une personnalité, il y a plus de choses, c'est plus que ça.
Mais il faut aller chercher le panache quand même, quoi.
Ouais, mais il y a eu des victoires, attention, c'est pas le mec non plus qui a fini toujours 5e ou 6e, enfin il y a un palmarès quand même derrière.
Alors les joueurs panache, on va parler tous les sports, on va prendre le tennis pour démarrer. Le mec, voilà, qui mérite dans l'histoire du tennis d'avoir la fin de carrière, donc d'un Pinot, on va donc prendre Pinot comme exemple, un mec qui a été attachant, qui fait l'unanimité, qui a une carrière fabuleuse et qui donc a son départ fabuleux en tennis. Fred, ce serait qui, toi?
Bah, c'est Roger.
C'est Roger, tu penses?
Ah oui, c'est un vrai joueur.
Qui a touché tellement les gens au point d'avoir le départ. Départ que tout le monde. Un McEnroe, par exemple, il méritait ce départ fabuleux aussi, ou trop clivant comme type?
Trop clivant. Trop clivant. Pourtant, super joueur. Enfin, derrière Federer, c'est le plus grand joueur qu'il y a eu. Je parle en qualité technique, tennistique.
Ah ouais. En foot, si un N'Golo Kanté, il prend sa retraite maintenant, là, Pascal, tu lui donnes l'hommage national ou non? Trop discret, trop...
Ah bah non, moi, la personnalité me convient beaucoup. J'apprécie beaucoup. Donc oui, puis pour tout ce qu'il a pu faire pour le football national.
Je pense que plus
son parcours... Ouais, si, quand même, quoi. Ouais, je pense qu'il aurait dû avoir un ballon d'or, déjà.
C'est toujours...
Bah, 2018, jusqu'en finale, c'est quand même grâce à lui.
Mais si tu prends par rapport à une carrière à la Pinot, est-ce que c'est le même genre, quoi? Le mec, est-ce qu'il a autant touché les gens? Est-ce qu'il a autant fait soulever les foules, machin?
Après, c'est...
Moi, je trouve que oui. Je lui donne l'hommage national avec le drapeau et compagnie, hein.
Après, comparé par rapport au départ de Pinot, c'est difficile parce que on est sur un sport particulier, individuel qui se court en équipe, qui est collectif. Après, Pinot, c'est le dernier romantique. Je veux dire, tu verras plus de coureurs comme ça.
Si, Pogacar.
Non, parce que Pogacar, il ultra domine. C'est un merc, si tu veux. Dès qu'il court, il gagne.
Ah.
Ouais, Pinot, c'est pas le cas.
Ouais, mais il y en aura parce que moi, je trouve que dans le vélo, c'est un des rares sports qui peut se prêter à ça. Parce qu'on sait que c'est dur. C'est un sport super dur.
Alors, si tu compares...
Et on sait qu'il y a des gars qui vont aller contre, parce qu'on sait que si on prend Pinot, on sait qu'il physiquement, il est moins fort que les énormes champions de sa génération. Mais tu sais que le gars est très fort et tu sais que c'est pas grave, il va tenter le coup, il va le faire, il va tenter des choses.
Mais
donc c'est ça que t'aimes. Tu vois, Alaphilippe a un autre palmarès différent, mais dans l'esprit de course, il se retrouve aussi. Le gars, il se passe toujours quelque chose, même si, en fait, il finit rincé. Voilà, mais il y va. Ouais. Van Der Poel est un peu comme ça aussi, plus fort. Mais les gars qui y vont. Parce que moi, c'est ça que j'aime, c'est la confrontation. Bah, t'es moins bon, mais enfin, sur le papier, mais t'y vas quand même, quoi. Et puis, t'exploses.
C'est un contexte, parce que là, actuellement, ils le font. Parce que tu prends sur les classiques, t'as des mecs comme Pogacar, t'as des mecs comme Van Der Poel, t'as des mecs comme Van Aert, ils ont le même état d'esprit, les mecs, ils font la course.
Ouais.
Parce que tu peux avoir un Pogacar, mais si derrière, t'as une équipe à la Armstrong et qui roule au compresseur, le mec, il va pouvoir le faire tous les jours. Les mecs, ils vont revenir tous les jours. Et le mec, ça fait pas la même course. Donc, c'est ça. Après, je suis assez d'accord sur Van Der Poel. Van Der Poel, il y a 2 ans, il a mal au dos. On se dit, putain, qu'est-ce que ça va devenir? Le mec, il se prépare, il revient. Championnat du monde, il est devant, il attaque, il se casse la gueule, il remonte sur son vélo, il gagne. Enfin, je veux dire, il a le côté aussi. Et puis bon, il y a le côté attaché, petit-fils de Poupou au niveau des Français. Côté des cordes sensibles qui joue aussi. Après, Van Der Poel. C'est pas le petit-fils de Poulidor. Je suis pas sûr que les Français l'aiment autant. Donc, c'est toujours pareil. Il y a un contexte. Il y a d'autres choses que le sport en lui-même.
Il y a d'autres. Autre chose, exactement. Mais... Et c'est qu'est-ce qui fait une légende, Fred?
Non, mais tu vois, sur le tennis, un exemple typique, c'est Agassi.
Ah oui.
Ah oui.
Voilà, Agassi, il a touché tout le monde. Alors attention, énorme champion, hein, parce qu'il a gagné tous les grands chelems. Ouais. Il a gagné, quasiment gagné tous les tournois. Ouais. Il était champion olympique, il a gagné le Masters. Il a un palmarès de fou.
Ouais.
Mais il a aussi une histoire. Il avait une flamboyance. Ouais. Le gars, il aimait pas forcément le tennis en plus. C'est ça qui est génial.
Petit côté bad boy.
Ouais, il perdait ses cheveux, la perruque, tout ça. Mais c'est, le mec, c'est une histoire fabuleuse.
Bon, après, perdre ses cheveux, c'est pas forcément un problème.
Hein. Non, mais ouais, mais de perdre une finale de Grand Chelem parce que t'as peur que ta perruque se détache.
Ouais.
Tu joues contracté tout le match parce que tu sens qu'elle se balade et t'as pas envie d'avoir la honte en mondiovision, quoi.
Et c'est ta marque de fabrique.
Et ouais, c'est ça. Et c'est assez fabuleux. Et jusqu'au bout de l'histoire. Parce qu'il est quand même il est marié à Steffi Graf, qui est la plus grande championne qui existe.
C'est le coup improbable.
Et ouais, c'est ça. Et en fait, le gars, tu aperçois qu'en plus, il est super sympa, quoi. C'était la rockstar et qui lui, enfin voilà.
Bah, c'est vrai que toi, tu l'as bien connu. T'as été
bien sûr, l'époque où je jouais contre le mur. Je devais avoir les cheveux jaunes, mais bon.
Allez-y cet été, on vous le redit. Allez taper contre le mur, vous parlerez à Agassi, apparemment. Pour des mecs, en rugby, ce serait qui le type où on a envie de se dire, mais moi, j'ai envie d'être ton pote, en fait. J'ai envie de te connaître.
T'en as, enfin, d'autres niveaux, mais. Un gars comme Chabal a eu une alors que c'est pas forcément un énorme joueur mais c'était vraiment un joueur d'impact et qui tu pouvais suivre les joueurs les gens s'identifiaient à ça quoi
je sais pas si on peut s'identifier
au physique ce côté
tu vois un Thibaut moi j'aimerais bien être pote avec Thibaut Pinot tu vois c'est plus N'Golo Kanté j'aimerais bien être son pote il y a des gens tu les vois tu dis putain ce mec là me touche j'aimerais bien le connaître bravo monsieur Chabal
tu vois actuellement ce serait Dupont parce que je pense que les lui il fait sympa aussi comme gars
il fait très sympa il fait simple machin,
c'est abordable
C'est ça, se construire en tant que légende. Moi, j'aimerais être pote avec Pascal Bouédec. Je peux vous dire, c'est pas facile.
Moi, je choisirais Armand Duplantis.
Armand Duplantis,
qui a l'air très abordable. Alors que le mec, il est hallucinant ce qu'il fait.
Ouais, c'est pas faux. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Moi, Maurice Green, tu vois aussi.
peut-être moins sympa. Michel Bolt, tant qu'à faire, il est très sympa.
Allez, on skide là-dessus. Soyez sympa avec votre entourage. Vous aurez peut-être un départ du coup à la Thibaut Pinot, votre virage à Saint-Germain-le-Fouillou dans la
Marne. La
côte des Chiliens. Bon chant. Allez vous éclater là-dessus. J'ai le com qu'on redit sur Strava. Je dois être le 4125e coureur. En tout cas, amusez-vous évidemment sur notre belle baïette. Je vous dis, il y a quand même des plans d'eau, il y a des belles bosses. Il y a plein de choses à faire et on vous souhaite un très très bon été, entrecoupé bien sûr d'émissions de sport épique sur les différents événements sportifs parce
qu'il y en a
et on retrouve une émission spéciale également samedi 2 juillet pour le petit tour de France des écoles primaires également ça ce sera le 2 juillet c'est un mardi
oui,
j'étais pas loin,
mais
tu vois. Ce sera mardi en direct de l'espace Mayenne la Sport Épique est partout, l'autre radio est partout sur les événements importants du 53, bien entendu. Messieurs, là, on vous souhaite un excellent dimanche, je l'ai déjà dit, d'excellentes vacances. Et nous, vous nous retrouvez sur les ondes l'an prochain, sur notre horaire classique. Allez, à très bientôt. Salut Pascal, salut Fred,
salut merci d'avoir été avec moi.
Salut, bel été à tous.
Allez, bravo à tous.